La démarche palestinienne, elle est assez fine, parce que à la riposte des États-Unis et d'Israël, qui ne sont pas partis au statut de la Cour, l'autorité palestinienne, elle oppose une démarche qui est fondée sur le droit. En fait, ce qui est vraiment en jeu derrière la simple question de la Cour pénale internationale, c'est une dynamique diplomatique qui vise à permettre à la Palestine d'obtenir la reconnaissance officielle en qualité d'État. Ce sont les opérations menées par Israël en juillet-août 2014 qui sont en ligne de mire. Mais après, quand un État, quel qu'il soit, adhère à la Cour pénale internationale, ça donne tout à fait mandat aux autorités de la Cour d'examiner si lui-même ne commet pas des crimes qui rentrent dans son statut.
Est-ce qu'Israël a un quelconque moyen d'échapper à cette enquête de la Cour pénale internationale ?
Le procureur va mener son examen préliminaire et supposons que la chambre préliminaire lui donne feu vert et qu'il puisse continuer son enquête. La Cour ne pourra être compétente à partir de ce stade-là que s'il est démontré que les tribunaux israéliens n'ont pas d'ores et déjà jugé les responsables des violations alléguées du statut. Et c'est ce qui est en train de se passer. Parce qu'au moment où nous parlons, l'avocat général de l'armée israélienne a ouvert un certain nombre d'enquêtes en Israël devant les tribunaux israéliens au sujet d'incidents au cours de l'opération à Gaza, au mois de juillet et août 2014. Ce qui veut dire que Israël est en train potentiellement de juger les personnes qui pourraient tomber dans le filet de la Cour pénale internationale. Eh bien, si Israël mène ses procédures de bout en bout avec sérieux et que rien ne peut être contesté, alors la Cour pénale internationale pourra difficilement se déclarer compétente. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le principe de complémentarité.
Et que se passera-t-il si la chambre préliminaire autorise le procureur à ouvrir une enquête ?
Si la chambre préliminaire autorise l'enquête, alors on retournera dans un mécanisme très classique, donc au procureur d'enquêter, bien évidemment. Et puis si la gravité des faits est avérée au regard du statut, et si un certain nombre d'autres conditions sont remplies, alors on pourra avoir un procès en bonne et due forme devant la Cour pénale internationale.
Est-ce que cette démarche palestinienne qui vise à rendre Israël coupable de crimes de guerre ne risque pas de geler le dialogue de paix ?
Il y a beaucoup d'éléments aujourd'hui qui font de cette démarche une démarche assez contre-productive sur le plan diplomatique. Ce qui me ferait dire, a priori, que les États-Unis sont dans le vrai en estimant que diplomatiquement, cette démarche est problématique, c'est le jeu des taxes qui sont pour le moment confisquées et mises sous séquestre par l'État d'Israël. Israël est chargé de collecter un certain nombre de taxes qui sont ensuite reversées à l'autorité palestinienne. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le budget de l'autorité palestinienne est tributaire à plus de 90% de ces sommes-là. Israël, en réaction, a indiqué qu'elle bloquait ses fonds sine die jusqu'à ce que la situation décante.
106 millions d'euros de taxes collectées, la Palestine se met quand même en danger.
Ah ben bien sûr, c'est la ressource première pour le fonctionnement de l'autorité palestinienne. En être privé ouvre la voie au gel du versement des salaires, et puis après à leur blocage, puis après à leur annulation pure et simple, et donc à une escalade de la violence. À l'évidence, ce n'est pas un élément favorable pour le maintien de la paix et de l'ordre social que le blocage de l'essentiel du budget, surtout que ces taxes-là sont dues, soyons clairs. Ce ne sont pas des dons, ce sont des taxes qui ont été perçues en vertu d'un accord international. Cet accord doit être respecté. Clairement, il ne l'est pas. Je doute effectivement qu'Israël accepte de rétablir le versement des taxes à horizon immédiat, sous couvert, bien évidemment, d'enquêtes qui risquent d'être diligentées sur son propre territoire.